Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masmaro.
Madame, Monsieur, bonjour. Célébration hier, 3 mai, de la journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème national façonner un avenir de paix. Occasion pour les responsables de la corporation, aussi bien au niveau national que provincial, de rappeler le rôle important des hommes de médias, mais aussi la précarité et la pauvreté qui les empêchent de s'épanouir pleinement, sans compter des défis sécuritaires. Les épreuves hors session, l'examen d'État édition 2026 débute aujourd'hui lundi sur l'ensemble du pays. À cette occasion, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kassa Oriental 1 rappelle aux parents et aux finalistes qu'il est strictement interdit d'amener des téléphones portables dans les centres d'examen. Présence des éleveurs nomades en Bororo munis de cartes d'identité pour réfugiés signalés dans les territoires de Businga, province du Nord Ubangi. Le député provincial Jean Yaya qui le confirme sollicite l'implication du gouvernement central pour gérer la situation. Bienvenue à cette édition du journal. Les professionnels des médias célèbrent chaque 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, en République démocratique du Congo, le thème choisi est « Façonner un avenir de paix ». Pour le premier vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo, la précarité et la pauvreté font partie du lot des journalistes malgré leur résilience. On écoute Cyril Kiliba, joint par Jean Gandou.
Sur papier, nous sommes une presse libre, indépendante. Nous exerçons notre liberté. Mais dans les faits, cette liberté-là est contrastée par plusieurs contraintes. D'abord, la précarité, la pauvreté de la presse lui enlève une grande partie de sa liberté. Maintenir une presse dans ces conditions-là, c'est exactement n'est pas vouloir d'une presse libre. Et puis, sur le plan national, façonner un avenir de paix, c'est un grand défi quand on sait que depuis maintenant près de 4 ans, la RDC est un territoire qui n'est pas en sécurité dans toutes ses frontières et les journalistes en payent les prix, particulièrement dans la partie est de notre pays. Il y a des rédactions, il y a des médias, il y a des journalistes qui ont quitté leur lieu de vie et qui ont abandonné leurs médias, dont les médias ont été saccagés et leur propre vie mise en danger. Et même dans la partie sous contrôle du gouvernement, on ne peut pas dire que c'est la liberté totale. La pauvreté, la précarité n'est pas que le lot de la partie occupée.
Ainsi, il est vrai que cette journée met l'accent sur le droit à la liberté des professionnels de la presse. Il est aussi en fait, c'est que ces droits sont encadrés par des règles à respecter. C'est dans ce cadre qu'hier dimanche, à Matadi, dans la province du Congo central, le président de l'Union nationale de la presse du Congo est revenu sur les nouvelles dispositions prises par cette structure d'autorégulation et de soutien aux journalistes afin de décourager l'afflux des moutons noirs dans la profession. Dieudonné Mwakadimbi est joint au téléphone par Élise Kavira.
Le premier problème, donc, il faut avoir le niveau universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le journalisme dans les institutions d'enseignement supérieur reconnues par l'État congolais. Ceux qui ont aussi d'autres diplômes qui n'est pas de la filière du journalisme, ceux-là aussi ont quand même droit à cette carte. Mais là, on va jouer maintenant sur l'ancienneté, donc les années qu'ils prestent au niveau de la presse, bien sûr. Mais alors, pour ce qui concerne les communicateurs, puisque la plupart et maintenant au niveau du gouvernement, dans des institutions politiques comme des communicateurs. Ceux-là, les restes journalistes, bien sûr, ne sont pas éligibles à la nouvelle carte de presse jusqu'à ce qu'ils vont quitter les cabinets politiques là où ils ont été affectés. Le journalisme s'exerce en respectant certaines normes, d'où j'invite tous les journalistes à se référer seulement au code d'éthique et de déontologie du journaliste qui constitue notre Bible.
Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2026 débutent aujourd'hui lundi sur l'ensemble du pays. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kassai Oriental 1 parle d'une baisse des effectifs sur place par rapport à l'année dernière. Notez que pour cette session, 57 centres sont ouverts dans cette province éducationnelle. Et face aux enjeux de crédibilité et de discipline, l'inspecteur lance un appel ferme aux finalistes. Il leur est strictement interdit d'amener des téléphones portables dans les centres de passation. Pour lui, cette mesure vise à garantir la transparence et le bon déroulement des épreuves. Suivez les explications de Étienne Nambou-Yumloumé, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Kassa-Oriental 1, au micro des Standards à la finale.
Nous avons un effectif d'enrôlés de 22 701 candidats, mais ceux-là qui ont pris l'inscription comme candidats à l'examen d'État, c'est 18 025. Déperdition, on ne sait pas calculer jusque-là le pourcentage, mais c'est une grande déperdition parce que l'année dernière, il y avait plus de candidats que cette année-ci. D'abord aux finalistes, je leur demande de garder le calme et surtout de la discipline au sein du centre d'examen d'État. Nous voulons que l'examen puisse démarrer dans tous les centres au même moment et qu'il se termine au même moment tel que les instructions nous les demandent. Ce qui est interdit aux finalistes, je le dis, j'insiste, le téléphone. C'est une journée sans téléphone. Qu'on habite loin, qu'on habite tout près, on doit se défaire du téléphone. Il faudrait pas que on donne un travail supplémentaire aux surveillants, aux chefs de centre, et à son adjoint de pouvoir perdre le temps de fouiller. Et là, j'interpelle les parents. Lorsque l'enfant sort de la maison, vous lui rappelez cela. Il ne faudrait pas avoir le téléphone. Tout va baigner dans un bon climat.
Et au programme de ces épreuves hors session de l'examen d'État figure la dissertation des matières techniques, le français oral et les pratiques professionnelles. Une première étape décisive donc avant la session ordinaire de juin. Entre confiance, stress et espoir de réussite, les finalistes du secondaire s'apprêtent à défendre 6 années de parcours scolaire. Et jusque hier dans les écoles, enseignants et élèves affinaient encore les dernières stratégies. La pression monte, mais certains élèves affichent déjà leur confiance. Christian Makassing a rencontré certains d'entre à Kinshasa.
À la veille des épreuves hors session édition 2026, les émotions se bousculent dans le rang des finalistes. Certains affichent une sérénité assumée, convaincus de leur préparation.
Je me sens sereine parce que j'ai confiance en ce que j'ai appris à l'école. Je dirais que je crains vraiment, vraiment, vraiment les maths. J'attends une réussite avec minimum 80%.
D'autres en revanche oscillent entre pression et détermination, conscients de l'enjeu.
Franchement, j'ai mélangé un peu tout, stress, excitation et envie que ça finisse. Vu que c'est la dernière ligne droite après 6 ans, donc je veux pas rater ça.
Les enseignants, eux, se disent rassurés de leur encadrement et lancent un message aux finalistes.
En ce qui concerne la dissertation française, j'insiste sur la bonne compréhension du sujet. Chers finalistes, croyez en vos capacités, travaillez avec sérieux et abordez les épreuves avec calme et détermination.
Du côté de parents, l'heure est aussi à encouragement au rappel des efforts consentis tout au long du parcours scolaire.
Courage, les finalistes, mais je vous demande en tant que parents de pouvoir vous rappeler du sacrifice que les parents ont fait pour vous aider à arriver jusque-là.
Les finalistes d'édition 2026 sont appelés à faire preuve de rigueur et de détermination pour franchir cette étape décisive.
Et on en quitte-vous hier à la veille du lancement de ces épreuves hors session de l'examen d'État. Le syndicat national des professionnels de l'enseignement, SINAPE Nord Kivu 3, appelle à appeler les finalistes au calme, à la sérénité, à la discipline. Comme ailleurs au pays, ces épreuves débutent aujourd'hui lundi sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 3. Cette entité qui couvre les territoires de Massy de Walikale compte pour la session 2026 60 centres de passation avec environ 9 500 candidats inscrits. Parmi eux, près de 5 900 garçons et environ 3 600 filles. Le secrétaire provincial du SINAPE rassure que toutes les dispositions sont déjà prises pour accueillir les candidats dans de bonnes conditions et ce, malgré le retard de paiement des enseignants pour le mois d'avril. Exaucé Bandou Bauma, secrétaire provincial du SINAPE Nord Kivu 3, s'exprime à ce sujet au micro de Bernardine Diambo.
C'est un moment crucial pour leur avenir et nous avons veillé à ce que les centres soient prêts à les accueillir dans les meilleures conditions possibles, peu importe le non-paiement des salaires des enseignants du mois d'avril qui tarde jusqu'à aujourd'hui. Les surveillants sont prêts, même s'ils n'ont pas été payés le mois d'avril, mais quand même nous les avons mobilisés et ils seront dans leurs centres respectifs. Nous demandons aux parents de soutenir moralement leurs enfants. En ces derniers week-ends, ils doivent devoir éviter leur mettre une pression excessive. Ils doivent s'assurer simplement qu'ils soient à l'air dans leurs centres respectifs. Ce lundi est un grand jour pour nos finalistes. Mon message est simple. Gardez votre calme. L'examen d'État n'est pas un piège, mais une occasion de démontrer les compétences acquises durant tout votre cycle secondaire. Nous croyons à votre potentiel et vous demandons d'aborder ces épreuves avec discipline et honnêteté. Bonne chance à tous les finalistes.
Bonne chance donc à tous les finalistes, également de la part de Radio Capi. Autre nouvelle, le test d'embauche lancé par la Régie des Eaux a eu lieu ce dimanche, hier donc, à Kinshasa, dans l'enceinte de l'Université protestante au Congo, UPC, comme également sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans le Congo central, le Haut-Katanga, le Kwilu, le Maniema et d'autres provinces. Face aux candidats présents, le directeur général de la Régie des Eaux, David Chulumba, a insisté à Kinshasa ici sur le principe de la méritocratie dans le processus d'embauche. Les profils recherchés concernent les filières suivantes: l'électricité de maintenance, mécanicien de maintenance, plombier de réseau et usine, pompiste des opérations, soudeur mixte, technicien de laboratoire, chef de section, statistique, technicien épureur, caissier, recouvreur et facturier. Le directeur général de la Régie des Eaux revient sur la procédure de ces concours ainsi que les principaux objectifs. Suivez les propos de David Chilumba, de la DG de la Régie des Eaux, au micro de Benjamin Moudoumbi.
Je voudrais d'abord remercier tous ces jeunes gens qui se sont mobilisés partout à travers le pays pour soumettre leur candidature pour les postes qui étaient plébiscités à la Régie des Eaux. Nous avons besoin de toute une panoplie des métiers techniques à la Régie des Eaux pour combler les vides que nous avons connus avec le départ en retraite d'un certain nombre de nos agents, mais aussi parce qu'il faut rajeunir la classe des travailleurs de la Régie des Eaux. Et donc aujourd'hui, nous donnons cette opportunité à ces jeunes qui se sont distingués de réellement montrer de quoi ils sont capables, de nous prouver qu'ils peuvent bien mériter de joindre la grande famille de la Régie des Eaux. Des milliers de jeunes Congolais qui avaient postulé et qui avaient été sélectionnés pour les différents postes sont donc en train de passer les tests de recrutement. Et parmi eux, on sélectionnera les meilleurs et alors les meilleurs. Comme vous avez entendu dans la salle, tout ce qui compte, c'est la méritocratie. Ce ne sont pas des recommandations qui viennent de gauche ou de droite. Si vous méritez, vous êtes là. Si vous avez échoué, vous n'êtes pas là. C'est aussi simple que ça. On veut encourager les jeunes à apprendre, à connaître pour mériter l'emploi. L'emploi, ça se mérite sur base des connaissances et des compétences et non pas d'autres considérations.
Des informations en provenance de la ville de Guadolite font état de la présence significative des éleveurs nomades en Bororo, dont le territoire de Businga, c'est à 140 km du chef-lieu de la province du Nord Ubangi. La nouvelle est confirmée par le député provincial Jean-Yaya Kouba. Selon cet élu du territoire de Businga, la présence de ces éleveurs dans les trois groupements de ce territoire constitue une source d'insécurité pour les populations paysannes. Ces Bororo, reconnus comme peuple nomade, sont munis des cartes d'identité pour réfugiés délivrées par le ministère de l'Intérieur de la RDC. Le député provincial Jean Yaya s'est confié à Askenzi Bataïro.
Dans le groupement Zakunda, c'est le chef de groupement qui les a amenés au groupement Bomboa. À son tour, le chef de groupement Bomboa les a conduits à 2 km dans la forêt du groupement Wuma. C'est ça qui a insécurisé la population. Le gouverneur de province Jean Bosco Kotongo n'a pas apprécié cet ajustement, raison pour laquelle il a suspendu de leur fonction le chef de ces trois groupements. Cette affaire est très complexe. C'est depuis longtemps que le gouvernement provincial cherche à chasser ces Mbororo. Mais il y a toujours des blocages, car c'est la CNR qui, en travaillant directement avec le ministère de l'Intérieur, a semé des années dans la province. Ils ont délivré à ces éleveurs étrangers des cartes de réfugiés. Or, ces Mbororo ne sont pas des réfugiés. Au juste, nous ne comprenons rien. Ces Mbororo sèment la désolation. Les vaches détruisent le champ de paysans.
Ce parlementaire sollicite l'implication du gouvernement central pour mettre fin à l'envahissement des Mbororo qui sont partis du territoire de Yakoma pour arriver dans celui de Businga en passant par Mobaï Mbongo. Le mouvement de lutte pour le changement Lucha a fêté le week-end son 14e anniversaire d'existence dans la province du Maniema. Il a organisé un point de presse où le mouvement a donc réitéré son engagement dans la lutte citoyenne. Par la même occasion, il montre également sa position disant non à la révision constitutionnelle. Sa déclaration publique a été lue par Maître Athanase Kandolo, militant pour démocratie au sein de la Lucha section de Kindu. Suivez un extrait choisi par Florence Kizalunga.
Au-delà de nos préoccupations internes, nous restons profondément alarmés par la situation sécuritaire du pays, de l'intégrité territoriale. Nous condamnons fermement l'occupation persistante d'une partie du territoire national par l'AFC-M23, soutenue par le Rwanda. Nous demandons au gouvernement d'assumer sa responsabilité première, celle de défendre l'intégrité territoriale du pays et d'œuvrer sans relâche à la récupération des territoires occupés au travers la restauration de l'autorité effective de l'État dans les zones occupées de rebelles. Nous réaffirmons en ce moment notre opposition ferme à l'initiative de révision ou de changement de la Constitution. Nous exhortons respectueusement le président Félix Tshisekedi d'honorer l'esprit de son serment en abandonnant promptement ce projet dangereux qui du reste constitue une pire provocation, car les blessures laissées par les luttes passées sont encore vives. Nous mettons en garde et prévenons le régime en place. Quant à ce...
Radio Capi commence aujourd'hui une série de reportages sur la FECUFA, la course à la présidence de la Fédération Congolaise de Football. L'association est donc lancée. La commission électorale a réceptionné 9 listes de candidatures provisoires. 3 ont été déclarées recevables et 6 recevables provisoirement. Ils ont 3 jours pour introduire le recours. La liste définitive sera rendue publique le 11 mai. Pour comprendre le déroulement du processus électoral à la FECUFA, Radio Capi propose donc une série de papiers explicatifs. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux critères d'éligibilité. Vanessa Congolo.
Selon l'article 37, alinéa 4 du statut de la FECUFA, tout candidat au comité exécutif doit avant tout être de nationalité congolaise et résider de manière permanente en RDC. Il doit être âgé d'au moins 25 ans, jouir de toutes ses aptitudes mentales et de l'ensemble de ses droits civiques. Sur le plan de l'expérience, le statut exige un engagement avéré dans le football congolais, justifié d'un rôle actif dans le football congolais pendant au moins 3 ans, comme dirigeant d'un club ou d'une ligue, entraîneur, arbitre international, médecin sportif, ancien footballeur ou promoteur d'un club ou centre de formation affilié à la FECUFA. En revanche, le candidat ne doit pas avoir été condamné à une peine de prison de 3 mois ou plus, ni avoir été reconnu coupable d'une violation de code d'éthique de la FIFA, CAF ou de la FECUFA dans les 4 années précédant les scrutins. Autre exigence importante, au moins 3 femmes doivent siéger au sein du comité exécutif. Enfin, un membre élu au comité exécutif ne doit pas appartenir à une commission indépendante, ni représenter un membre à l'Assemblée générale et toute autre personne occupant encore un mandat au sein d'une entité. Il faut retenir que les candidatures sont représentées par liste. Aucune candidature n'est reçue individuellement. La liste est composée de 15 membres, un président, un deuxième, troisième et quatrième vice-président et 10 membres.
Actualité internationale.
La Tanzanie a fermé un camp accueillant des milliers de réfugiés burundais et a rapatrié la quasi-totalité d'entre eux, à l'exception d'une poignée d'individus. C'est ce qu'ont déclaré vendredi les militants des droits de l'homme et les Nations Unies.
L'invité.
Le monde a célébré le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans le Congo central, un afflux remarquable de moutons noirs est constaté dans la profession. Quelles sont les dispositions prises à ce jour pour décourager cela? Nous en parlons avec Dieudonné Mwakadimbi, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo au Congo central. Il répond aux questions d'Élise Kavira.
Monsieur Mwakadimbi, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous venons de célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous vous êtes quelquefois exprimé à travers les médias au sujet de la présence des moutons noirs dans la presse du Congo central. Qu'en est-il aujourd'hui?
Pour ce qui concerne la presse au Congo central, moi je pense qu'il n'y a presque pas de problème à déplorer, mais est-il que ce n'est pas seulement dans la ville de Matadio, dans la province du Congo central où il y a des moutons noirs? C'est un problème général, donc à travers toutes les provinces.
Justement, quelles sont les dispositions prises pour décourager cet afflux des moutons noirs dans la profession?
Ce que nous faisons maintenant, c'est sur base d'une décision de l'INPC fixant les conditions d'éligibilité à la nouvelle carte de presse. C'est ce que nous sommes en train de divulguer. Nous étions d'abord à Makisantu, Banzaru, Kimpese. Maintenant, il nous reste la série de Boma, Mwanda et Bafleur. Donc, nous sommes en train de vulgariser la décision de l'INPC fixant les modalités d'éligibilité à la nouvelle carte de presse. Puisque qu'est-ce qu'on a constaté? Par le passé, tout le monde s'est présenté comme journaliste et tout le monde, même les chauffeurs, les éditeurs, les journaux, tout ça ici de suite, étaient détenteurs de la carte de presse. C'est ainsi que cette fois-ci, nous avions essayé de mettre des garde-fous. Pour être éligible à cette carte, vous devez avoir le niveau universitaire. Et puis, il y a certaines conditions aussi, tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait le journalisme dans les institutions d'enseignement supérieur reconnues par l'État congolais. Ceux qui ont aussi d'autres diplômes qui n'est pas de la filière du journalisme, ceux-là aussi ont quand même droit à cette carte. Même s'ils n'ont pas, mais là, on va jouer maintenant sur l'ancienneté, donc les années qu'ils prestent au niveau de la presse, bien sûr. Mais alors, pour ce qui concerne les communicateurs, puisque la plupart est maintenant au niveau du gouvernement, dans des institutions politiques comme des communicateurs. Ceux-là, les restes journalistes, bien sûr, mais ne sont pas éligibles à la nouvelle carte de presse jusqu'à ce qu'ils vont quitter les cabinets politiques là où ils ont été affectés. Mais, quand ils vont quitter, ils peuvent revenir à l'INPC. Nous allons les recevoir sans problème.
À ce jour, combien de journalistes sont répertoriés dans toute la province du Congo central?
Bon, moi je pense que c'est un peu difficile, puisqu'il y a des chaînes là qui naissent au jour le jour. Ils ne signalent ni au CESAC ni à l'INPC. Maintenant, il y a des gens qui travaillent là-bas comme étant journalistes. Alors c'est ainsi que pour le moment, hein, à l'instant, il nous est difficile. Peut-être quand nous allons effectuer la ronde, puisque ce que nous faisons, la vulgarisation de la décision là, de l'INPC, avec ça, peut-être on saura aussi identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Peut-être ce n'est qu'après qu'on pourrait bien définir le nombre de journalistes que nous avons au niveau de la province.
Peut-on dire que les journalistes de cette province jouissent de leur liberté d'expression?
En tout cas, je puis dire oui. Les journalistes sont libres de s'exprimer puisque jusque-là, en dehors du cas d'emprisonnement que nous avions connu, je peux dire, il y avait deux hommes plus une fille là qui sont entrés dans la vie privée d'une autorité de la place, quoi. Aujourd'hui, en étant communicateur du gouverneur, donc au niveau de l'INPC, nous ne les reconnaissons pas.
Avez-vous un message à adresser aux professionnels de la presse du Congo central?
Bon, le message c'est quoi encore, je peux dire? Le journalisme s'exerce en respectant certaines normes, d'où j'invite tous les journalistes à se référer seulement au code d'éthique et de déontologie du journaliste qui constitue notre Bible.
Monsieur Dieudonné Mwakadimbi, Radio Okapi vous remercie.
Merci, merci beaucoup.
Dieudonné Mwakadimbi, président provincial de l'INPC Congo Central. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.